bonsoir et bienvenue à cette discussion. Alors, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas suspendu ma campagne, hein, malgré l'incendie catastrophique de Notre-Dame de Paris. Je voudrais d'ailleurs préciser que je trouve que cette trêve, vous savez, ils appellent ça une trêve électorale, bien hypocrite, hein, parce que la réalité, c'est que tous ceux qui nous expliquent qu'ils ne sont plus en campagne occupent le terrain, multiplient les couplets sur la fierté nationale, la France éternelle, enfin bon, voilà, hein, leur petit cocorico, ça fait jamais de mal, hein, voilà, donc nous, on marche évidemment pas là-dedans. Et puis, je voulais dire aussi au préalable que vous ne le savez peut-être pas, mais à cette heure-là, il y a déjà 1 milliard qui a été récupéré pour reconstruire la cathédrale de Notre-Dame. Hein, donc, vous avez vu comment les choses s'étaient passées. Hein. Le premier à se mettre sur les rangs, c'était Pinault. Pinault, il a mis sur la table 100 millions. 100 millions, lui, voilà. Nous, on cherche notre euro, notre porte-monnaie, mais lui... Ah, il a mis sur la table 100 millions, son adversaire de toujours, Arnaud, a doublé la mise, puis il a mis 200 millions. Ouais, ouais. Et puis, bon, Bettencourt, elle a été un peu plus lente, mais enfin quand même, elle aussi, elle y va, 100 millions, enfin bon, voilà. Hein. Et au bout du compte, on en est déjà à 1 milliard. Hein, 1 milliard. Alors, c'est quand même quelque chose d'intéressant, hein, parce que vous voyez que quand on nous explique que le gouvernement nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les EHPAD, et qu'il faut qu'on travaille un jour de plus, hein, parce que c'est ça qu'il va nous annoncer bientôt, solennellement, hein, quand il nous explique qu'il n'y a pas d'argent pour les urgences hospitalières, pour les écoles, pour rénover les chemins de fer, hein, et bien voilà, hein, on se rend compte que tout ça, ce sont des mensonges, hein, que de l'argent, évidemment, il y en a. Spontanément, ces gens-là ne vont pas le lâcher. Hein. Il va falloir en fait aller les secouer si cet argent, on veut effectivement qu'il serve à la collectivité. Si on veut que cet argent serve, d'abord qu'il revienne aux travailleurs, parce qu'en réalité, d'ailleurs, je me suis dit, je me prépare toujours, parce qu'il y a des journalistes, vous savez, ils ont des questions des fois un peu perfides, donc je me préparais à la question, et vous, Madame Arthaud, est-ce que vous voulez, est-ce que vous allez contribuer? J'avais envie de répondre, mais moi, c'est déjà fait, hein. Parce que quand Pinault, quand Arnaud, ils mettent ça, cet argent-là, c'est un peu d'une autre argent. Hein. La réalité, c'est que cet argent, c'est quand même le résultat du travail collectif, hein, de tout un tas d'entreprises. Et d'une certaine façon, au travers de leurs dons, hein, c'est un peu de notre argent. Donc, voilà, c'est évident que ces gens-là, eh bien, cet argent, ils l'ont. Et en fait, bah, il va falloir qu'on se batte pour aller l'arracher, pour qu'il serve. Pour qu'il serve effectivement aux emplois, pour qu'il serve aux salaires. Hein, pour qu'ils servent à améliorer la condition ouvrière. C'est ça la réalité. Voilà, je voulais démarrer là-dessus, parce que c'est l'actualité, mais élection européenne oblige, je vais quand même un peu démarrer cette introduction sur nos perspectives européennes. Hein, quelle est notre vision à nous de l'Europe, hein, comment nous voyons les choses? Alors d'abord, pour dire que nous, notre conception de l'Europe, c'est celle d'une Europe véritablement unie et sans frontières. Voilà, c'est celle d'une Europe fraternelle, d'une Europe de l'entente entre les peuples. Bonjour, il y a des places devant.
Merci.
Il y a deux places qui nous... Là-bas, voilà. Donc c'est celle d'une Europe fraternelle, hein, et d'une Europe aussi ouverte sur le monde. Hein, parce que nous, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, l'économie, elle est mondialisée depuis fort longtemps. Quand on va dans les différents pays d'Europe, on retrouve les mêmes entreprises, les mêmes enseignes, les mêmes marques. La classe ouvrière de France, c'est comme la classe ouvrière d'Europe. Elle est issue de plein d'origines différentes. Elle vient, hein, de tout l'Hexagone, d'accord, mais pas seulement. Elle vient d'Espagne, elle vient d'Italie, elle vient de Pologne, elle s'est mélangée ainsi. Et puis elle vient au-delà même de l'Europe, hein, elle vient du Maghreb, elle vient d'Afrique, et c'est une seule et même classe ouvrière. Donc la réalité, c'est que tout nous pousse, en fait, à être entremêlés. Voilà, les peuples, hein, se sont entremêlés, les économies sont interdépendantes. Et ben nous, on pense que l'avenir, c'est d'abattre les frontières. L'avenir, c'est que justement, il y ait une circulation libre, hein, des femmes et des hommes, et que l'avenir, c'est de gérer en commun cette économie et cette planète. Hein. Nous, nous sommes de ceux qui disons souvent que notre pays, c'est la Terre, et notre patrie, c'est l'humanité. Alors, notre conception de l'Europe, eh ben, c'est ça. Hein. C'est cette conception hein, d'une Europe unie et sans frontières. Bon, maintenant, notre perspective, c'est ce qui serait un progrès. Nous, on pense que ce serait un progrès sans nom, hein, parce que, bon, d'abord, ces frontières, on y reviendra peut-être, hein, mais elles sont un obstacle que pour les pauvres. Les frontières, elles sont un obstacle que pour les travailleurs, hein, parce que quand on a de l'argent, quand on est riche, on peut franchir toutes les frontières. Et même, parfois, on peut s'acheter des passeports sans aucun problème. Hein. Donc, ces frontières, c'est surtout une entrave pour les pauvres, et nous, on est pour les faire disparaître. Voilà, alors... Maintenant, cette Europe à laquelle nous aspirons, évidemment, elle est irréalisable dans le cadre de cette société. C'est une évidence que tant que la société elle est dominée par l'argent et par cette classe capitaliste hein, qui impose des relations de domination pour tout, des dominations de pillage, des dominations d'exploitation, dans la mesure où la société elle est parcourue de rivalités commerciales, de guerres commerciales, et puis régulièrement de guerres tout court, hein, on est bien conscient que cette Europe-là, elle peut pas se construire. Elle ne peut pas se construire, hein, il suffit de regarder hein, ces institutions européennes, bon, elles ont été conçues par et pour la bourgeoisie, pour les affairistes. Hein, à la base de l'Union européenne, c'est la création d'un marché commun, d'un marché unique. Et quand on reprend toute l'histoire de la construction européenne, eh ben, c'est une histoire de marchandage sordide entre les différentes bourgeoisies européennes. Donc l'Union européenne, elle est à l'image de cette Europe du capital. Hein, elle est traversée hein, par de la concurrence, par des rivalités, par des rapports de domination. Et évidemment, du point de vue des travailleurs, elle n'a rien pour plaire. Parce que cette Union européenne, elle n'a rien apporté, elle n'a pas fait progresser hein, le sort des travailleurs. Bon, il n'y a même pas encore le début d'un SMIC européen. Hein, et au contraire, ce qu'on voit, c'est des grands groupes qui profitent de la misère à un bout de l'Europe pour aller exploiter en payant 3 ou 4 fois moins les salariés de ces pays. Et puis, on peut faire aussi le bilan pour les femmes, hein, pour les droits des femmes. Pareil, l'Union européenne n'a pas du tout été un progrès, n'a pas permis hein, aux droits des femmes de progresser, y compris ce droit élémentaire du droit à l'avortement n'existe même pas encore à l'échelle de toute l'Europe. Donc, la réalité, c'est que voilà, pour la population, pour les masses exploitées, cette Union européenne, elle n'a rien apporté. Elle n'a rien apporté, mais encore une fois, il ne faut pas en être surpris, hein, elle a pas été conçue pour ça. Elle a été conçue pour leurs affaires, pour leurs profits, hein, pour à la fois être suffisamment puissant hein, pour contrecarrer les Américains ou les Chinois. Mais elle n'a pas été conçue pour faire avancer le sort des travailleurs. Alors, on le constate, évidemment. Voilà, alors, pour autant, hein, nous rejetons ces institutions européennes, on en pense beaucoup de mal, mais en même temps, nous, on ne fait pas partie de ceux qui voulons le repli national. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous, on est internationalistes, notre vision, c'est au contraire hein, justement d'organiser l'économie et la société à l'échelle où en réalité elle se développe déjà. Hein. Donc nous, on n'est pas du tout pour le repli national. On pense que les institutions européennes, c'est des instruments, c'est une machine de guerre, oui, dans les mains de la bourgeoisie, mais exactement comme les institutions en France, comme les institutions nationales. Hein, que ce soit la Banque de France, que ce soit le gouvernement, ils n'ont jamais été au service des pauvres, ils n'ont jamais été au service des exploités. Hein, ça a été toujours des outils hein, pour le business de la bourgeoisie. Donc, on n'est pas du tout hein, d'accord avec tous ceux qui prônent hein, l'édification de frontières, le repli national, hein, et qui nous parlent de protectionnisme. Vous avez vu que ce protectionnisme, il est à la mode. On le retrouve à droite, à l'extrême droite. On le retrouve aussi hein, du côté de la France insoumise, du côté quasiment maintenant de tout le monde, le protectionnisme. Hein. Il faudrait se protéger. Mais la question, c'est se protéger de qui et de quoi? De qui faut-il se protéger et de quoi? Des travailleurs étrangers? Des migrants?
de la Chine, des États-Unis, de l'Allemagne. Nous, nous pensons qu'il faut se protéger de cette classe capitaliste. On pense qu'il faut, faut se protéger de ce grand capital qui ne jure que par son profit, que par le marché, que par sa guerre commerciale, que par sa compétitivité, et qu'on subit dans toutes les entreprises. Hein, parce que cette guerre-là, il l'amène avec notre peau, cette compétitivité, ces rivalités commerciales. Donc nous, notre problème, c'est ça, c'est que les travailleurs réalisent que si leurs conditions reculent, ce n'est pas du fait d'un autre travailleur. C'est parce qu'on est confronté à un système qui est basé sur l'exploitation, sur l'oppression des travailleurs. Et c'est ce combat-là qu'il faut mener. Nous, notre problème, ce n'est pas de dénoncer telle ou telle institution de la bourgeoisie. Vous pouvez prendre les institutions internationales, européennes, nationales. Vous pouvez prendre tous les traités. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Hein. Ils sont tous, en réalité, des outils dont se servent ceux qui aujourd'hui dominent et organisent toute l'économie et toute la société. Alors nous, le problème, ce n'est pas de les dénoncer. C'est pas d'en choisir un plutôt qu'un autre. Notre problème, c'est de contester cette domination du grand capital, cette domination d'une poignée de privilégiés sur l'économie et sur la société. C'est ça notre perspective. Alors concrètement, le programme qu'on va défendre, nous, dans ces élections européennes, c'est un programme pour que les travailleurs, ils expriment leurs intérêts vitaux, leurs intérêts élémentaires, que ce soit à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle de la France, les problèmes des travailleurs, ce sont les mêmes. Hein. C'est les problèmes d'ailleurs qui ont été soulevés par la mobilisation des Gilets jaunes. C'est d'abord et avant tout le problème du pouvoir d'achat. Hein. Alors oui, nous, on pense qu'il faut avoir un programme pour répondre au problème du pouvoir d'achat, au problème du chômage de masse. Alors le programme que nous allons mettre en avant dans cette élection, d'abord, sur le pouvoir d'achat, il s'agit de revendiquer, de prendre sur ses profits, pour augmenter les salaires et pour les augmenter considérablement, pour augmenter les salaires et les pensions de retraite. Et pour nous, il faut les augmenter jusqu'à 1 800 euros net, parce que 1 800 euros net, c'est ce qu'il faudrait, c'est ce qu'il faut pour avoir une vie à peu près digne dans cette société. Donc, augmenter les salaires, les pensions de retraite, et puis les indexer sur les prix. Parce qu'évidemment, avec les prix qui augmentent, vous avez vu que c'est l'électricité qui va augmenter en juin, je ne me souviens plus si c'est en juin ou en juillet d'ailleurs, je ne me souviens plus, mais quand même de 6%, les prix augmentent, les loyers augmentent, les mutuelles, il faut que les salaires, les pensions de retraite soient augmente au même rythme. Hein. Donc ça fait partie de notre premier objectif, de notre premier point. Et j'insiste là-dessus parce que vous voyez, le mouvement des Gilets jaunes, qui a beaucoup parlé du pouvoir d'achat, il ne s'est pas concentré sur cette revendication d'augmenter les salaires. Lui, il s'est concentré sur les impôts et sur les taxes, en demandant qu'il y en ait moins pour les travailleurs. C'est une revendication qui était tout à fait juste, c'est vrai. C'est vrai que si on paye plus d'impôts et plus de taxes, on a moins de pouvoir d'achat. Mais quand même, l'essentiel de notre pouvoir d'achat, c'est quand même ce qu'on gagne. C'est quand même son salaire, c'est quand même sa pension de retraite. Et renoncer à mener ce combat-là, c'est-à-dire à renoncer à revendiquer de vivre normalement, dignement, des fruits de son travail, on ne peut pas l'accepter. Il faut bien sûr se battre là-dessus. Il faut se battre là-dessus. Le deuxième point, c'est évidemment la lutte contre ce chômage de masse. Et encore aujourd'hui, bien sûr qu'il faut lutter pour interdire ces suppressions d'emplois, ces licenciements qu'il y a dans des grands groupes qui sont richissimes, qui empochent des dizaines, des centaines de millions et qui continuent de cette hémorragie des emplois, y compris qui ferment carrément des usines. Hein, on a vu dernièrement dans l'actualité des grands groupes, c'était le cas de Ford, d'Ascoval, c'était le cas d'Arjo-Wiggins, les fonderies du Poitou sont aussi sur la sellette, mais il y a eu aussi, vous l'avez entendu sans doute, Carrefour, grand groupe, Société Générale, ils suppriment des emplois. Hein. Donc, il faut arrêter avec ces suppressions d'emplois, les interdire. Hein, dans cette crise, dans ce chômage de masse, eh bien, supprimer des emplois, c'est forcément faire grandir la misère. L'autre revendication qui va aussi avec, c'est celle de revendiquer des embauches. Il faut des embauches partout. Il faut répartir le travail entre tous, sans perte de salaire, bien sûr. Parce que ce qu'on constate aussi partout où on travaille, c'est que la charge de travail, elle n'a fait qu'augmenter. Les cadences n'ont fait qu'augmenter. Hein, c'est vrai dans l'industrie, mais c'est vrai aussi dans le tertiaire. C'est vrai aussi quand on est employé, quand on travaille dans les bureaux. De plus en plus, la charge de travail, elle s'est alourdie. On fait le boulot de deux, on fait le boulot de trois, hein, avec des horaires qui sont de plus en plus délirants. Hein, et on nous impose des conditions de travail qui deviennent infernales pour beaucoup. Donc il faut à la fois soulager cela et puis justement permettre à tous les jeunes qui veulent aussi prendre part à la société de trouver justement des emplois. Mais sans ça, on ne sortira pas du chômage de masse parce qu'il y a quand même 6 millions de chômeurs. Aujourd'hui, le résorber, ça veut dire forcément créer des emplois. Arrêtez avec cette précarité, arrêtez avec cette politique qui consiste à prendre les travailleurs comme des pions, à les prendre, à les jeter. Hein. Mais donc imposer que voilà, le travail y soit réparti entre tous. Alors évidemment, tout ça, vous voyez que c'est un combat, c'est un programme, c'est des objectifs pour des luttes. Ça ne viendra pas tout seul, évidemment, il ne suffira pas de demander. Il va falloir se battre pour ça et on pense que un troisième objectif, une troisième exigence doit aussi accompagner ces deux points. C'est l'exigence justement de pouvoir contrôler l'argent de ces grands groupes capitalistes, contrôler l'argent de ces grandes fortunes. Parce que c'est évident que dès qu'on se bat, dès qu'on se met en grève, dès qu'on manifeste, ces gens-là nous expliquent que de toute façon on va les ruiner, qui ne peuvent rien faire, qu'il n'y a pas d'argent et que nous sommes des irresponsables. Hein. Donc il faut tout de suite s'arrêter. Hein, voilà. Donc si on veut pouvoir avancer, aller au bout de notre combat, eh ben, en fait, il faut qu'on se dise, qu'on soit conscient, nous, d'être légitime à mettre notre nez dans les comptabilités de ces grands groupes. C'est légitime d'ouvrir ces livres de compte, de publier, de mettre sur la table tout cet argent qu'il y a. J'insiste là-dessus parce que, y compris, on a beaucoup parlé du contrôle dans le mouvement des Gilets jaunes. Et il disait, il faut qu'on contrôle où va l'argent de nos impôts. Il faut qu'on contrôle à quoi ça sert. Comment les élus utilisent cet argent. C'est tout à fait normal. Nous, on trouve ça légitime. Mais pourquoi ne pas avoir le même raisonnement et la même volonté vis-à-vis de ces grands groupes capitalistes? Parce qu'au bout du compte, le travail, les heures de travail qu'on passe dans ces grands groupes, c'est notre impôt qu'on leur verse en nature. Hein, eh bien, on doit savoir où va cet argent qu'on produit, qu'on fabrique. Hein. Quand à la fin de l'année, ils nous expliquent que de toute façon, ils n'ont pas de quoi embaucher l'apprenti, par exemple, ou l'intérimaire, qui est là depuis des mois et des mois, qu'ils n'ont pas de quoi améliorer les conditions de travail, acheter telle ou telle machine qui soulagerait le travail, eh bien, on doit pouvoir savoir. Mais alors, il passe où, votre argent hein? Et se sentir légitime pour mettre notre nez dedans. Alors, voilà pour nous un programme, des objectifs qu'on veut populariser. Parce qu'on pense, effectivement, que les travailleurs, s'ils se battent, eh bien, ils doivent aller dans cette direction-là. Il ne suffira pas de contester la politique de Macron. Macron, il a une responsabilité, bien sûr, dans les reculs qu'on subit. Mais ceux qui créent ce chômage de masse, ceux qui écrasent aujourd'hui la condition ouvrière, c'est ce grand patronat. C'est cette grande bourgeoisie. Il faut aussi lui demander des comptes. Il faut aller dans cette direction. Sans quoi, notre combat, on ne pourra pas le mener au bout. Donc, voilà notre démarche dans cette campagne. Et j'en reviens un petit peu au début, mais vous voyez, nous, on n'est pas de, comment dire, on n'est pas de ceux qui disons il faut un meilleur partage des richesses. Parce qu'en fait, ils ne partageront jamais les richesses. Ils ne les partageront pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein, vous voyez, pour Notre-Dame de Paris, oui, ils ont bien voulu mettre 1 milliard, etc. Hein, mais c'est eux qui le décident pour leur, pour se faire un peu, comment dire, pour se faire mousser, voilà, pour se faire un petit peu de pub, pour montrer leur générosité, tout ce que vous voulez, pour avoir aussi un peu des réductions fiscales, hein, parce que vous avez vu aussi qu'il y a quand même tout ça, ils ont l'habitude hein, d'effacer leurs impôts avec ce genre de mécénat, hein, voilà. Mais la réalité, c'est qu'eux, ils ne partageront pas ces gens-là. Nous, ce qu'on veut expliquer aux travailleurs, c'est que celui qui partage, c'est celui qui commande, c'est celui qui décide. Et si on veut qu'il y ait un partage des richesses, eh ben, il faut commander. Il faut commander et il faut viser, effectivement, cette perspective-là, que les travailleurs qui font tout tourner dans cette société, eh bien, ils accèdent eux aussi aux commandes, qu'ils prennent les commandes. Et ça, bien sûr qu'il faut avoir cette perspective-là en tête. Nous, on est pour que les travailleurs se libèrent totalement de cette exploitation et contestent même le pouvoir de ces gens-là. Donc, si, effectivement, il y a des luttes, si les travailleurs se battent et inversent le rapport de force, eh bien, il faudra qu'il y ait des femmes et des hommes, eh bien, qu'il y ait cette conscience-là, que tôt ou tard, il va falloir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à leur prendre le pouvoir sur ces entreprises, le pouvoir sur politique, sur la société, qu'il va falloir aller jusqu'à les exproprier, c'est-à-dire leur prendre leur propriété privée hein, de leurs moyens de production, enfin, de ces moyens de production-là, et les transformer en propriété collective et les gérer, nous, collectivement, les travailleurs. Et cette perspective-là, il faut la défendre aussi. Et on peut la défendre. Et aujourd'hui, parce que quand on regarde hein, où on va, on peut que se dire qu'on court à la catastrophe. C'est vrai sur le terrain économique. Parce qu'en fait, vous avez vu qu'on est, en réalité, on est dans une crise, on s'y enfonce, et on peut même aller que de crise en crise, en fait, avec leur système. Parce que le capitalisme, il est au bout du rouleau. Il est complètement au bout du rouleau. Les marchés sont saturés. Ce grand patronat, il n'a plus de perspective pour développer ses profits, véritablement. Hein, il sait très bien qu'investir dans la production, eh ben, ça veut dire c'est des profits qui ne seront pas garantis. Ça veut dire mener une guerre commerciale féroce contre les autres. Ça les intéresse moyennement et ça les intéresse d'autant moins que de toute façon, ils ont un secteur où ils peuvent placer leur argent, le faire fructifier très vite et de façon illimitée. C'est la finance et la spéculation. Et là, on est dans un système qui est devenu de plus en plus parasitaire parce que tout le système aspire les capitaux justement dans la finance. Hein, c'est-à-dire qui ne produit rien, ne fait que développer cette menace hein, d'un nouveau krach financier. Et ça, cette menace d'un nouveau krach financier, ce n'est pas seulement nous, lutte ouvrière, qui en parlons, parce que tous les experts économiques de la bourgeoisie le disent, hein, la charge explosive, elle est encore plus importante que celle qu'il y avait avant 2008. Et ça va nous péter à la figure. Ils ne savent pas quand, mais alors ils sont tous unanimes pour nous expliquer que tout ça, ça va nous arriver dans la figure hein, et à nouveau hein, faire reculer toute l'économie, toute la société. Et bien sûr, ça sera les travailleurs qui en paieront le prix fort. Donc, on est dans un système hein, qui, effectivement, nous condamne. Hein, nous condamne à la crise économique. Sur le plan humain, je voulais aussi en dire quelques mots, mais parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus inhumaine. Hein, et le sort qui est fait aujourd'hui aux migrants est révoltant. Et c'est inadmissible, c'est insupportable. Et voilà, de voir aujourd'hui toutes ces possibilités dans la société hein, et de voir qu'on laisse mourir hein, des femmes et des hommes qui ne veulent que sauver leur peau, ouvrir des perspectives à leur famille, c'est intolérable. Hein. C'est le signe d'une société qui est de plus en plus barbare, en fait, tout simplement. Tout simplement. Et puis, troisième catastrophe et troisième écueil hein, dans lequel on court, hein, c'est bien sûr le problème de l'écologie, mais ça, tout le monde le dit. Alors ça, tout le monde le dit, tout le monde connaît bien le problème. Hein, ils peuvent nous en parler pendant des heures. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ont fait des études, en veux-tu, en voilà. Ils savent tout. Hein. Ils savent tout de ce qui va se passer, de la catastrophe, de comment ça se produit, etc. Hein. Mais, en fait, ils sont complètement impuissants. Ils sont complètement impuissants. Ils sont incapables d'avancer pour la simple et bonne raison que le problème de l'écologie, c'est pas du tout un problème individuel. Hein. Bien sûr, ils cherchent toujours à nous culpabiliser. Hein. Il faudrait qu'on fasse des petits gestes pour la nature, pour sauver la planète, etc. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème de l'écologie, c'est comment on organise l'économie. Qu'est-ce qu'on produit? En quelle quantité? Pour qui? Comment? Comment on organise notre... comment on produit notre énergie? Comment on distribue les produits? C'est les modes de consommation. C'est tout ça le problème de l'écologie. C'est un problème d'organisation de la société. Donc c'est un problème collectif. Hein. Sauf qu'on peut avoir des idées fantastiques. Hein, mais à quoi servent-elles toutes ces idées? Dans la mesure où ceux qui décident de tout ça, bah, c'est une poignée, une minorité de groupes capitalistes qui vont faire ces choix. En poursuivant leur intérêt privé, toujours le même, hein, leur même objectif, c'est accumuler le plus de profits le plus vite possible. Hein. Donc tant qu'on ne tient pas les rênes de ces grands groupes, tant qu'on n'a pas exproprié cette bourgeoisie et tant qu'on n'est pas capable collectivement de se dire alors comment on fait, comment on organise cette économie, eh bien on pourra parler pendant des jours et des nuits d'écologie, on parlera pour ne rien dire. Alors, quand on prend un peu de recul sur la société, hein, le problème, c'est bien sûr de faire avancer nos intérêts immédiats, élémentaires, de travailleurs, encore une fois, élémentaires, hein, parce que pouvoir gagner sa vie en travaillant, en se faisant exploiter, ça ne me paraît quand même pas être une revendication extraordinaire. Hein, ça me paraît être élémentaire. Hein, mais en réalité, notre tâche et notre devoir, je dirais, à nous, travailleurs, eh bien, c'est même au-delà. C'est de se porter à la direction de la société, de réorganiser cette société, de réorganiser cette économie sur des bases collectives, sans justement cette concurrence, sans cette recherche de profit aveugle. Donc voilà les perspectives que nous portons et que nous voulons aussi porter dans cette campagne. Et bien sûr, je l'ai dit à plusieurs reprises, ces perspectives, elles ne peuvent... ce n'est pas un programme électoral, ce que je vous ai développé là. C'est un programme de lutte. Ce sont des objectifs, ce sont des perspectives qu'on pourra faire avancer s'il y a des mobilisations puissantes, s'il y a des soulèvements, s'il y a une population entière en révolte. C'est ça la réalité. Hein. Mais nous sommes convaincus que ces révoltes, elles vont survenir. Il y a eu évidemment cette mobilisation des Gilets jaunes. Hein. Nous, on espère que c'est l'hirondelle qui annonce le printemps. Mais quand on regarde quand même la société, quand on voit toutes ces raisons d'être révoltées, quand on voit ces inégalités délirantes, on se dit qu'il y en aura des coups de colère, il y en aura des révoltes. Et ça peut venir de plein de catégories sociales différentes. Ça peut venir aussi des petits patrons qui, eux aussi, sont écrasés par les plus gros qu'eux, par les banques, par cette concurrence folle. Hein, tous ceux qui sont en train d'être écrasés par Amazon, par tous ces grands groupes-là. Hein, ça peut venir des paysans qui, eux aussi, sont complètement étranglés, hein, de plus en plus. Donc ça peut venir de plein de catégories. Ça peut venir des jeunes qui se disent « Mais là, ils sont en train de nous bousiller la planète, hein, de bousiller notre avenir. Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc des révoltes, ça peut venir de plein de côtés différents. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que la révolte qui sera à même de changer le cours de l'histoire, de changer nos vies, de changer le cours de l'histoire, c'est la révolte consciente du monde du travail. Nous voulons nous adresser à la classe ouvrière, aux travailleurs en général. Quand je parle des travailleurs, je pense bien sûr aux chômeurs, aux précaires, aux retraités du monde du travail. Mais nous pensons que c'est eux qui ont les clés pour, effectivement, à nouveau que la société aille de l'avant. Parce que ce sont eux qui sont dans ces citadelles capitalistes, ce sont eux qui sont au cœur du pouvoir de la bourgeoisie, ce sont eux qui créent ces profits, ce sont eux qui créent ces capitaux, qui sont à la base même de la domination de la bourgeoisie. Ça leur donne un levier fantastique pour agir contre cette classe capitaliste. Et puis, aussi, c'est que les travailleurs, ils font tourner la société. Et ils peuvent très bien renverser cette classe sociale et la remplacer. Parce que c'est une chose de dire il faut changer la société, il faut renverser la société qui existe, mais ça en est une autre de dire on met quoi à la place ? Eh bien, les travailleurs, parce qu'ils font tourner la société déjà aujourd'hui, eh bien, ils sont capables de la faire tourner demain, mais pour leur propre compte, pas pour le compte d'une minorité, pas pour le compte d'une poignée de privilégiés, pour leur propre compte, c'est-à-dire pour les intérêts de l'écrasante majorité. Alors voilà pourquoi nous, dans cette campagne, on va avoir ce slogan « Contre le grand capital, le camp des travailleurs ». Voilà. Et on veut à la fois populariser ces idées, ces objectifs, et puis dans cette campagne, on veut montrer aussi qu'il y a un parti qui se place du point de vue des intérêts des travailleurs et qui est prêt, effectivement, à mener ce combat. Et c'est quelque chose d'important, ce parti, nous pensons qu'il est urgent, qu'il est nécessaire et urgent de le construire. Et je voudrais, pour finir, prendre l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie et au Soudan. Je voudrais conclure là-dessus, mais vous voyez, il se passe là-bas des événements extraordinaires. Et on ne peut que saluer le courage de ces millions de femmes et d'hommes qui se sont levés, qui ont pris des risques, qui se sont lancés dans le combat. D'abord, ils font la démonstration de la puissance qu'un peuple en révolte peut avoir. Parce que si Bouteflika n'est plus là, c'est pas parce que la France ou je sais pas quelle grande puissance éprise de démocratie, c'est pas parce que ces puissances-là sont intervenues. C'est parce qu'il y a eu des millions de femmes et d'hommes, de petites gens dans la rue. Et ils ont réussi effectivement à le faire quitter le pouvoir, lui qui s'y accrochait depuis 20 ans. Et au Soudan, on sait moins de choses sur ce qui se passe. En tout cas, c'est plus difficile de le savoir, pour moi. Mais bon, il était là quand même depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il était installé et bien installé au pouvoir. Donc, on voit la puissance que cela peut avoir, un soulèvement populaire. Et puis, on voit aussi comment, dans ce contexte-là, les gens se politisent très vite, réfléchissent à la société, se posent un tas de questions. Il y a un élan de politisation fantastique aussi. Et puis, ce qui est aussi assez remarquable, c'est de voir comment tous les peuples de la région, y compris les Égyptiens, regardent ce qui se passe et sont aussi soulevés d'espoir par rapport aux perspectives que ça ouvre. Donc, on est dans un contexte comme ça, dans une situation comme ça, où effectivement, ce qui se passe là-bas, ça ouvre bien des perspectives pour le peuple algérien, pour les travailleurs algériens, qui ont à se battre, pas que d'ailleurs pour leur liberté démocratique, mais aussi pour vivre dignement de leur travail, de leur salaire, etc. Mais je voudrais dire, c'est là l'essentiel d'ailleurs, c'est que pour eux, évidemment, le combat, il ne fait que commencer. Il ne fait que commencer, d'ailleurs, eux-mêmes le disent. Ils le disent, c'est pas parce que Bouteflika est parti que le régime est parti. Ils le savent, ils en sont tout à fait conscients. Ils sont tout à fait conscients parce qu'ils ont aussi quand même l'expérience de ce qui s'est passé en Tunisie. Ils ont l'expérience de ce qui s'est passé en Égypte. Ils savent qu'il y a encore beaucoup à faire. Qu'il y a encore beaucoup à faire, qu'ils sont face à des gens, à une poignée de privilégiés qui est très bien organisée, qui est rompu à la politique. Eux, ils sont organisés, ils ont un appareil d'État, ils ont des gens, ils sont organisés. Ils sont organisés, il y a les services secrets, il y a l'armée, il y a un tas de gens qui sont formés pour, de toute façon, assurer la continuité du pouvoir et assurer la continuité de l'ordre social. Ça, c'est une évidence. Donc, ils sont confrontés à des gens qui sont très organisés. En face, il y a un peuple avec tout son enthousiasme, avec sa capacité de faire plein de sacrifices, c'est sûr, mais qui n'est pas organisé. Et c'est ça le problème. Nous, on pense que si les travailleurs algériens veulent véritablement imposer leurs intérêts, eh bien, il va falloir qu'ils trouvent le moyen de s'organiser. de s'organiser de façon à ne pas être une masse informe qui peut être manœuvrée par on ne sait qui. Il faudra qu'ils s'organisent sur la base de leur entreprise, sur la base de leur quartier, sur la base de leur ville, mais qu'ils s'organisent pour se donner eux-mêmes une politique et pour réussir à effectivement l'imposer. Qu'ils s'organisent aussi pour se préparer à ce que, à une éventuelle répression de l'armée, parce qu'on sait aussi que si les événements ne vont pas dans le sens, dépassent ce que l'armée le souhaite, elle réprimera. Elle en a l'habitude, l'armée algérienne. Des bains de sang, elle en a fait un petit paquet dans son histoire. Et il faut aussi que, et un certain nombre d'ailleurs le sait, un certain nombre d'Algériens le savent, que oui, c'est une possibilité, etc. Donc comment on s'organise ? Eh bien, vous voyez la difficulté. Nous, on pense que justement, pour aider les travailleurs dans ce genre de circonstances à s'organiser, eh ben, faut qu'il y ait un parti. Il faut qu'il y ait un parti qui se place du point de vue des travailleurs et qui les aide justement, qui les aide à trouver cette voie-là, de s'organiser. Un parti qui puisse dire, ben, il faut qu'on s'arme. On ne peut pas faire confiance aveugle, une confiance aveugle dans cette armée. Il faut qu'on s'arme, il faut qu'on se prépare à se protéger. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un ancien manifestant de la place Tahrir, un Égyptien, qui disait ce conseil aux Algériens. Il disait, une demi-révolution, c'est un suicide complet. C'était un conseil, c'est le conseil d'un manifestant de la place Tahrir qui sait ce que ça veut dire quand on laisse l'armée aux commandes, effectivement, et quand on fait trop confiance et quand on pense que les choses elles peuvent évoluer comme ça sans mener ce combat-là. Donc, vous voyez que là, dans ce genre de circonstances, un parti, c'est quelque chose de très précieux. Alors là, vu l'ébullition, vu l'effervescence, peut-être qu'un tel parti peut se construire, peut surgir, peut émerger, peut gagner la confiance ne serait-ce que d'une minorité, et il peut comme ça se constituer. En tout cas, nous, c'est notre souhait, bien sûr, c'est notre espoir. Mais en tout cas, nous, ce qui se passe là-bas, à la fois ça nous enthousiasme, et à la fois ça nous conforte dans notre volonté que nous, là où on est, il faut qu'on commence à le construire, ce parti. Il faut qu'on le construise, parce qu'effectivement, s'il y a des révoltes puissantes, et il y en aura, eh bien, il faut qu'on soit prêt. En tout cas, il faut qu'il y ait au moins, ne serait-ce qu'une le début d'un parti qui soit prêt à ça, qui soit prêt et qui puisse justement proposer, armer les travailleurs d'une politique dans ce genre de situation. Alors voilà, je voulais terminer là-dessus, même si certains se disent, oui, mais alors l'Algérie, le Soudan, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici, et on est loin de vivre de tels soulèvements. Peut-être qu'il y en a ici qui pensent ça. Ben, je crois que c'est une erreur. Je pense que, y compris dans un pays riche comme la France, vu ce qui se passe, si, il peut y avoir des soulèvements profonds, puissants, des remises en cause comme ça, de tout le système. Et ça peut venir plus vite qu'on ne le croit. D'où, effectivement, la nécessité, encore une fois, que tous ceux qui sont conscients, qui veulent aller dans cette direction, eh bien, qui redoublent, effectivement, d'énergie pour réussir à construire ce parti dans ce sens-là. Alors, voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Mais vous voyez, nous, cette campagne électorale, eh bien, c'est à la fois mettre dans les consciences des travailleurs des objectifs qui doivent être présents s'ils décident de se battre, de façon à ce que leur combat ne soit pas gâché, ne soit pas gaspillé, que leur énergie et leur combativité ne soient pas perdues. C'est de mettre ces objectifs, ces revendications-là dans la tête des travailleurs, et c'est aussi aider à la construction d'un parti. Parce que se présenter dans des élections, c'est aussi permettre à tous ceux qui regardent de voir qu'il y a un parti qui se place de leur côté, qui se place de leur point de vue et qui veut regrouper le plus de monde possible. Donc voilà notre démarche, voilà la campagne qu'on veut faire. Et maintenant, je vous laisse la parole pour que vous disiez ce que vous en pensez. Vous, disiez, vous posiez votre question. Vous pouvez dire aussi les désaccords que vous avez, évidemment. Mais voilà, à vous la parole.